Session Padel.
Allez, salut à tous, j'espère que vous êtes en grande forme pour ce nouvel épisode de Session Padel numéro 8. Et oui, déjà que le temps passe vite, on va parler des championnats du monde senior plus. Avec une pluie de médailles tricolores à Alicante, on s'intéressera au padel français. Beaucoup de joueurs et de joueuses partent en Espagne pour continuer de se former, mais dans quel domaine on peut progresser, quelles ressources on peut mettre en place sur notre territoire pour proposer tout simplement une alternative à ces joueurs et à ces joueuses. Il y aura, comme chaque mois, l'instant technique avec Yann Oradou et la troisième mi-temps pour terminer.
Session Padel.
Pour m'accompagner, une paire mixte de talents de très haut niveau, composée d'une jeune joueuse qui flirte avec le top 100, puisqu'elle est 104 cette semaine, c'est Carla Touli. Salut Carla.
Bonjour Émilie.
Comment ça va, t'as la forme?
Très bien, très bien. J'ai été très inspirée ce week-end en te voyant remporter ta médaille d'or, donc tout va bien.
D'ailleurs, c'est sympa, on en parlera tout à l'heure, d'être venue nous faire un petit coucou à Alicante. Et aujourd'hui, Carla, bah là, t'as un partenaire de haut niveau qui vient d'être titré champion du monde des plus de 35 aux côtés de Max Moreau. Et c'est Adrien Maigret. Salut Adrien.
Salut Émilie, salut Carla, comment ça va?
Écoute, on est en pleine forme. Je sens que cette composition d'équipe va être explosive. En plus, Adrien, on était ensemble au championnat du monde. On en parlera dans la deuxième partie du podcast, mais on a déjà eu quelques discussions animées. Je sens que ce podcast va être fort sympathique. Carla, je le disais en introduction, tu es 104 cette semaine. Tu as commencé par le tennis, ensuite tu as fait des études de marketing aux États-Unis. Raconte-nous en fait comment tu es arrivée au padel.
Eh ben écoute, vraiment je m'y attendais pas du tout. J'ai toujours dit à Alix que jamais je jouerais au padel. Et au final, je suis venue la voir une semaine. J'étais en vacances à Barcelone et j'ai pu s'entraîner et ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, ah, en fait, ça peut être pas si mal le padel. Et j'ai commencé un petit peu à jouer avec des amis et jusqu'au moment où je lui ai dit, bon, bah en fait, je vais peut-être venir un mois en Espagne. Et le un mois s'est transformé en un an et demi. Ça a été assez rapide.
Parce que pour que les internautes cadrent bien tout ça, ça fait seulement quoi, 3 ans que tu as commencé? C'était après Covid, hein, c'est ça?
Le padel, non, j'ai commencé il y a un an et demi. En fait, quand j'ai déménagé en Espagne, j'ai vraiment commencé le padel. Ça faisait 2 mois que je jouais avec des amis, mais c'est tout.
Et là, ça y est, t'es addict total. Tu vas bientôt rentrer dans les 100. Ça va être bien.
On verra, c'est l'objectif. Je n'ai pas réussi à le faire au tennis, justement. C'était mon objectif aussi, mon rêve depuis que j'étais toute petite. Donc, le faire au paddle, ce serait beau, mais il manque encore quelques points.
Ouais, il manque quelques points, mais c'est fabuleux comme objectif d'avoir commencé effectivement par le tennis. Tu n'as pas réussi. Et là, c'est clair, tu vas y arriver, ça, j'en suis sûre. Toi, Adrien, tu viens aussi du tennis à la base. Tu étais moins 4.
Oui.
Tu as été moins 4. En plus, tu as un beau palmarès. Hein. Franchement, tu as été numéro 1 français en 2018-2019. Médaille d'argent au championnat d'Europe en 2019. Médaille de bronze aux mondiaux en 2022. Tu es consultant Canal, RMC. Tu as la tortilla d'Adri, ton émission sur la chaîne Twitch. D'ailleurs, je vous conseille d'aller en regarder. C'est tous les lundis ou presque. En tout cas, c'est de 19h à 21h. T'es ambianceur, tu me le disais, animateur, bref, tu fais plein de trucs.
Ouais, je fais plein de trucs, j'adore me diversifier et bah, j'ai l'opportunité, grâce au padel, de pouvoir faire tout ça. Et donc, j'en profite au maximum. Alors, c'est bien que t'as fait un petit résumé de ma carrière, parce que sinon, le podcast aurait été beaucoup trop long.
Ouais, j'adore. Et on va pas aborder effectivement tous tes titres. J'adore le melon, je kiffe.
Vous pouvez laisser tous les deux, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci.
Non, ça me fait énormément plaisir d'être avec toi, Carla.
Non, parce que ça me fait plaisir de le mettre en valeur. On en a parlé ce week-end, tu vois. Je veux que le podcast quand même commence dans de bonnes dispositions. Donc c'est important. Revenons aux choses un peu sérieuses par rapport au paddle et par rapport à toutes les activités que tu as aujourd'hui, Adrien. Quelle est la place en fait du paddle aujourd'hui par rapport au classement, par rapport à tes envies? Est-ce que tu fais aussi parallèlement, notamment tous tes jobs de consultant, et tu files des cours de paddle?
Oui, alors moi j'ai pris la décision de ne pas me lancer à 100% en tant que joueur de paddle. Donc j'ai à côté, je donne des cours de paddle, je suis coach, je suis aussi commentateur sur Canal+, consultant. J'ai aussi un petit rôle de chroniqueur sur l'émission PAF sur C8. Donc voilà, j'essaie de profiter à fond de la chance que j'ai de grâce au padel. Ça m'a permis de m'ouvrir un peu des portes dans ce domaine-là. Et en fait, je kiffe tellement que voilà, c'est un peu compliqué. J'ai commencé le padel très tard. Et puis au moment où il fallait se lancer, c'était pas la hype qu'il y a aujourd'hui, même au niveau des sponsors, même au niveau de la visibilité. Donc c'était un peu une décision difficile. J'ai pris cette décision à l'époque de pas me lancer, pas partir en Espagne et de continuer à jouer en étant compétitif sur le circuit national. Et voilà, j'essaie de le faire au mieux, d'être compétitif pour l'équipe de France surtout. C'est vraiment l'objectif qui m'anime le plus. Et j'aimerais bien aussi aller chercher un titre de champion de France. Je compte sur mon nouveau partenaire pour... S'il pouvait me l'offrir, ce serait vraiment top.
Et justement, Julien Serin est également le petit ami de Carla. Carla, puisqu'on parle justement de ce qui se passe à côté du padel, notamment tout ce qui est communication, Julien le fait très très bien. D'ailleurs, on lui fait un petit coucou. Et je vous encourage à aller sur sa chaîne YouTube, parce que franchement, il a fait notamment 24 heures avec Alix Colombon. Et c'est hyper chouette, ça se consomme super facilement. Toi aussi, tu communiques pas mal. C'est important aussi, bah, déjà pour les sponsors, et puis en termes de visibilité, de communiquer à côté du padel.
Ah, je pense que c'est super important de le faire et c'est vrai qu'en le voyant, je me dis que maintenant, bah, il a beaucoup de sponsors grâce à ça et ça marche vraiment. Moi, j'étais pas trop comme ça. Même si j'ai fait du marketing, tout ce qui est vidéo, ça m'a toujours plu. Mais le faire pour moi, j'avais du mal. J'aimais mieux le faire pour les autres. Mais là, c'est vrai qu'en le voyant faire, quand je le filme pour des vidéos, je lui demande, bon, bah, vas-y, fais-moi une petite vidéo aussi, comme ça je mettrai sur Insta. Je le fais de plus en plus. Et je me dis que oui, c'est important et que ça peut m'apporter beaucoup. Donc, je me force un peu à le faire. Lui, c'est plus naturel et c'est vraiment sa passion. Donc, c'est vrai que c'est plus simple. Et heureusement, parce que c'est vrai que je me rends compte, bah, Adri, tu dois le savoir aussi, mais le métier de YouTuber, en fait, c'est un métier. Et vraiment, toute la journée, il est là à faire des montages, des vidéos. Et soit ça te plaît et tu peux le faire. Si ça te plaît pas, c'est vraiment compliqué.
Tu le fais, toi, Adrien, aussi, je l'ai vu un peu, sur les tournois.
Alors, moi, j'ai beaucoup streamé, j'ai beaucoup fait de vidéos YouTube, mais pour les jeux vidéo, parce que c'est une autre passion hein, que j'ai. Je le fais un petit peu, ouais, j'ai profité là, récemment de bah, la tortilla pour les mettre en rediffusion sur YouTube. Ça a pas mal marché. Et puis, là, la dernière fois, il y avait un très bon match. En fait, le fait d'être avec Julien, c'est qu'en fait, ça inspire. On a envie de faire un peu comme lui, parce qu'on voit que c'est la façon dont il le fait, c'est super sain. Et au final, c'est vrai qu'on a beaucoup d'idées arrêtées sur ça. On a, ouais, je veux trop me mettre en avant, les gens vont penser le regard des autres. Et au final, bah, on voit que bah, c'est, quand c'est bien fait, quand c'est sain, quand c'est bien expliqué, le vlog, voilà, les petits tutos, les trucs comme ça, on voit que bah, finalement, c'est très sympa. Et en fait, ça inspire. D'ailleurs, son ancien partenaire, Man Vives, hein, s'est mis aussi sur YouTube. Et je pense que ça, il a beaucoup influencé bah, Man, du coup.
Ouais, il le fait super bien. En plus, il y a le sourire, il y a le ton, franchement, qui est parfait. Et ce que je trouve sympa aussi dans ces vidéos, c'est que ça permet, nous qui sommes de l'extérieur, de voir en fait votre quotidien, comment ça se passe dans les tournois, les hôtels. L'autre jour, tu étais avec lui, Adrien, c'était quand même pas foufou. Et je trouve que c'est fait avec du naturel. Non, mais ça montre aussi quand même, il y a le côté en fait piste qui est hyper sympa, le côté un peu paillette. Et tu te rends compte que derrière, voilà, il y a les hôtels et puis la vie un petit peu, entre guillemets, galère et, qu'on peut voir.
Moi qui suis un peu aussi, Carla, je vois ses vidéos un petit peu sur, en l'occurrence, des vidéos où elle fait des vibora et tout. Moi, je regarde un peu tout. J'aime bien fouiner un peu. Je suis le voyeur un peu sur les réseaux. et même ça, je trouve que c'est sympa. Les gens qui connaissent pas trop le paddle, ils peuvent aussi regarder techniquement ce que fait Carla sur ses vidéos. On peut effectivement voir la vie d'un joueur de paddle qui est pas forcément avec des paillettes, comme on pourrait dire. Et donc, en tout cas, c'est sympa, sûr.
Et c'est le retour des personnes aussi. Moi j'ai eu plein de commentaires justement sur la fameuse vibora. Bon, je fais pas la même en match. Là, ils sont là à demander des conseils et en fait il y a un échange qui s'installe avec les fans de paddle. Et ça, c'est vachement motivant aussi et ça donne envie d'en faire plus.
Mais déjà, si tu l'as fait à l'entraînement, c'est qu'après, à force de le travailler, tu seras capable de le faire en match. Allez, on va passer, j'allais dire, aux choses sérieuses, en tout cas au terrain, avec la première rubrique et c'est Top News. Top News. Alors Adrien, on va commencer avec les championnats du monde. Je le disais en introduction, pluie de médailles, médaille de bronze chez les filles, médaille d'argent chez les garçons. Et puis en team, bah toi, tu as été champion du monde des plus de 35. Et chez les filles, alors championne du monde, plus de 35, plus de 40, plus de 45, plus de 50. Il nous manquait les 55 pour faire du 100% tout simplement. Adrien, toi qui es en équipe de France aussi senior, comment tu as trouvé justement cette compète? Est-ce que tu as pris ton pied? Est-ce que tu as apprécié? Avec les vieux.
Alors, c'est gentil, Émilie, hein, tu nous as donné une médaille d'argent, mais c'est vous qui avez eu la médaille d'argent. Hein. C'est nous, on a eu la médaille de bronze. Je tiens quand même à le souligner. Bravo, mesdames,
c'est vrai,
pour votre médaille
c'est vrai.
D'argent.
Je minimise.
Écoute, Écoute, franchement, moi qui ai connu quand même ma première sélection avec l'équipe senior et pas senior plus, là c'était les seniors plus. J'aime bien mettre le petit plus, moi je trouve ça sympa.
Bah t'es obligé parce que plus parce que pour que les gens comprennent, bah, c'est-à-dire senior plus c'est les vieux et senior c'est les, on va dire.
Oui,
normaux.
Puis ça reste très poli, j'adore. et ouais. Donc la première sélection c'était en 2018 au Paraguay et c'est vrai que j'ai vu l'évolution d'organisation par la FIP, parce qu'à l'époque, c'était la FIP également qui organisait les championnats du monde. Et c'est vrai qu'on est dans des standards maintenant qui sont assez élevés comparé à ce qu'on a connu à l'époque. Voilà, j'ai trouvé ça très bien organisé. Alors, on m'avait pourtant dit qu'il ne fallait pas que je m'attende à un truc incroyable. Et au final, j'étais plutôt satisfait de la semaine. Je trouve que, voilà, que ce soit au niveau de l'hôtel, que ce soit au niveau des matchs, de la programmation, il n'y a jamais eu de retard. C'était très clair, les informations étaient données tôt la veille. Et donc, on n'a pas eu de couac, en tout cas, nous, chez les hommes. Et je crois que chez les femmes non plus. Ça a été vraiment nickel tout au long de la semaine.
Ouais.
Même la cérémonie, elle était sympa. La remise des trophées, magnifique. Les conditions de jeu étaient plutôt très correctes. Le seul petit truc à dire, parce qu'il faut toujours trouver un petit truc, c'est que c'était sur plusieurs sites. Il n'y a pas trop de choix. Il faut beaucoup de terrain. Et c'était aussi des surfaces un peu différentes. Donc, c'est un peu dur en adaptation. Le mardi, de jouer sur une surface sablée. Et le lendemain, jouer sur une surface non sablée, ce n'est pas vraiment les mêmes conditions de jeu. Voilà, le seul petit truc qui pourrait s'améliorer.
C'est adaptation. On voit quand même, donc vous finissez troisième chez les filles, médaille d'argent. On se rend compte que mine de rien, ok, c'est senior plus, mais que l'équipe de France, les Français, en fait, arrivent dans les top nations mondiales. Après, bien évidemment, l'Espagne, qui reste de toute façon intouchable. On en parlera d'ailleurs avec Carla, qui est venue nous voir face à l'Espagne. Autant dire que c'était une boucherie totale. On joue vraiment pas on pratique pas le même sport. Vous êtes derrière l'Espagne et l'Argentine. Voilà, ça montre que quand même le padel français existe sur le plan international, en tout cas chez les seniors plus, même chez les seniors.
Ah il existe parce que ça fait quand même depuis justement là en 2022 à Dubaï, on a fini troisième avec les médailles de bronze.
Ouais.
Là en senior plus, on refait médaille de bronze et on n'est pas loin cette fois-ci de battre l'Espagne. Ça va jusqu'au match décisif. Alors ils n'ont pas amené l'armada, ils n'ont pas amené leurs meilleurs joueurs parce qu'il y a encore un monde d'écart entre la France et l'Espagne et même l'Argentine. Si vraiment les meilleurs joueurs sont là, on peut vraiment pas lutter. Hein. Notre mission, ce serait éventuellement de, en tout cas en senior, de déjà marquer un set, ce serait bien. Et mais bon, c'est vrai que la France, par rapport à l'Italie, par rapport à la Suède, par rapport au Portugal, on est un petit cran au-dessus aujourd'hui. Ça évolue beaucoup dans ces pays-là, nous aussi, et on va essayer de batailler pour garder cette troisième place qui va être très difficile.
C'est vrai que Carla, tu es venue nous voir samedi. D'ailleurs, on t'en remercie. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est vrai qu'on parle souvent des Français, le padel, on est loin. Mais en fait, OK, il y a l'Espagne, il y a l'Argentine. Mais finalement, on est juste derrière dans toutes les catégories.
Ouais, alors moi, je trouve que vraiment, les Espagnols et les Argentines, c'est un autre padel. C'est vraiment pas notre padel en tant que Française, Italienne, Suédoise. On est plus tennis padel. Et tu l'as vu aussi, quand tu joues des Espagnoles, elles ont un temps, elles ont 3 fois, 10 fois plus de temps que nous en fait. Elles sont patientes, elles sont jamais en retard. Et ça je trouve qu'à tous les âges, à tous les niveaux, c'est à chaque fois le même problème entre guillemets. Je voyais nous en Pologne avec Adrien, on avait fait les Jeux Olympiques européens. Et pareil, ils n'avaient pas emmené leurs meilleurs Espagnols, mais c'était des jeunes. Et que ce soit des jeunes de 17 ans ou... Des plus expérimentées de 35 ans, en fait, elles jouent toutes un peu le même paddle et c'est ce qui nous manque. Et ça, je pense que c'est l'expérience et c'est le temps aussi. Nous, ça fait quelques années qu'on joue et elles, ça fait 10, 15, 20 ans. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment le temps et l'expérience qui nous manquent pour pouvoir rivaliser contre ces deux nations très fortes.
Adrien, t'es d'accord, j'imagine, avec ce que dit Carla. C'est vrai que moi, ça m'a sauté aux yeux. J'ai l'impression qu'elles pouvaient aller boire un café entre chaque frappe, quoi. Elles ont un temps de dingue.
C'est des joueuses, des joueurs qui ont commencé par le padel, qui ont eu très peu d'années de tennis derrière eux. Et surtout, ce qu'il faut aussi souligner, je pense que Carla le voit maintenant aujourd'hui depuis qu'elle est en Espagne, c'est qu'ils ont une science tactique et technique de ce sport qui est bien plus élevée que la nôtre. Nous, on n'est qu'en adaptation. On est des joueurs de tennis, on a une technique souvent tennis, même dans nos coups d'attaque. Alors, on rivalise bien. Maintenant, quelqu'un qui a commencé à 10 ans par le padel et qui a fait 20 ans ou 15 ans de padel, forcément, a quelque chose en plus que nous, on n'a pas, ou on a été habitué à un autre sport. Et voilà, c'est ce que je ressens, moi, quand je joue les meilleurs Espagnols. Hein. C'est que, on peut jouer, on existe un petit peu, pour avoir joué Galan et Paquito au dernier championnat du monde à Dubaï. J'ai perdu 6-1, 6-4, on a l'impression qu'on peut gagner, mais en fait, on fera 10 matchs, on gagnera jamais. Parce qu'ils ont un truc en plus, ils ont une maîtrise du jeu en plus, que ce soit avec les vites, même en attaque. Ils font moins de fautes, ils sont plus réguliers, ils ont plus la science de tactique. Voilà.
Comment tu le travailles, toi, Carla, justement, ce gain de temps, d'essayer d'avoir du temps, parce que j'imagine tu es toute jeune, toute fraîche, hein, même si tu as déjà un super classement. Donc, tu dois voir aussi les progrès assez rapides que tu fais. Comment tu travailles, justement, pour avoir ce gain de temps et être plus peut-être en anticipation plutôt qu'en réaction?
Non, c'est sûr. Après, moi, je trouve aussi qu'en venant du tennis, on a un avantage que les Espagnols n'ont pas. Et ça, j'essaye de ne pas le perdre. Donc, pas essayer d'être trop patiente et trop laisser passer les vides, parce que je trouve que, justement, je peux surprendre des filles qui jouent mieux que moi par le fait de jouer beaucoup plus avant les vitres. Elles n'ont pas l'habitude, en fait, de jouer contre des Françaises, contre des Italiennes qui jouent un autre paddle. Donc ça, j'essaye de ne pas le perdre déjà et de l'améliorer. Adrie le fait très bien d'ailleurs.
On a un peu le même jeu. Hein.
Vraiment, j'adore te voir jouer avec Jules parce que je me dis, ah ça, je peux faire. Forcément, tout ce qui est après les vitres, je le travaille tous les jours, mais ça vient avec le temps. C'est comme au tennis, des services du panier. Et ça vient petit à petit, je commence à prendre confiance. Après la vitre, je commence à comprendre un peu mieux les effets, mais ça, il n'y a pas de secret, c'est des heures et des heures d'entraînement. Donc ça va de mieux en mieux, mais il y a encore beaucoup de boulot.
T'es associée là, Jessica Gignier, c'est quoi votre programme, vos objectifs là, tout simplement sur cette saison?
Avec Jess, moi, dès qu'elle peut jouer, je joue avec elle parce qu'elle n'est pas dispo tout le temps. Elle a un travail, elle est maman, elle a plusieurs vies. Ça serait bien que je fasse 24 heures avec Jess, je pense qu'il peut s'amuser parce qu'elle fait vraiment beaucoup de métiers à la fois. Dès qu'elle peut jouer, en tout cas, moi, je suis ravie de faire des FIP avec elle ou des tournois en France. On a fait aussi un P500 homme. C'était super intéressant de jouer contre des hommes qui sont beaucoup plus puissants, donc ça nous apprend aussi beaucoup. Donc dès qu'elle est dispo, voilà, jouer avec elle, on va faire Rome ensemble et Paris. C'était l'objectif de faire les majeurs et les plus gros tournois en France et quelques FIP. Après, quand elle n'est pas dispo, c'est un peu plus compliqué pour moi, il faut que je trouve des filles, donc c'est à chaque fois la dernière minute. Là par exemple, pour la tournée sud-américaine, il y a un P2, P1, P1 au mois de mai. Il y a une fille qui m'a demandé hier et les inscriptions se terminent en 3 jours. Donc, c'est à chaque fois stressant et du last minute. Mais bon, quand je trouve quelqu'un, c'est cool. Mais du coup, je change beaucoup de partenaires quand Jess n'est pas dispo.
Après, tu vas progresser au classement, tu vas te faire connaître encore plus et les partenaires viendront à toi. Explique-nous comment toi, avec ton classement là de 104, quel cut c'est à peu près pour entrer, on va dire, dans un P2, comment ça se passe?
Alors, les P2 en Europe, par exemple, là en ce moment, il y a la Belgique. Il fallait être à peu près top 80 mondial pour rentrer. Il y avait 39 paires qui rentraient. Donc, j'en étais loin. P2 au Venezuela, il y a un mois, je suis rentrée tableau final. Donc, il n'y avait quasiment personne. En fait, ça dépend des lieux. En Europe, en général, c'est impossible. Enfin, il faut être top 80. Et là, par exemple, au Paraguay, j'espère rentrer dans les qualifs parce que je me dis que c'est loin, c'est cher. Donc, les filles ne vont peut-être pas forcément y aller. Donc, j'ai peut-être une chance de pouvoir y participer. C'est à chaque fois au dernier moment.
Ouais, au dernier moment. Mais bon, déjà, d'avoir quelqu'un déjà au dernier moment, c'est déjà bien. Toi, Adrien, c'est quoi ton programme et tes envies avec Julien là, sur ces prochaines semaines, ces prochains mois?
Alors là, on a programmé un FIP Star au Caire au mois de mai, le prochain gros tournoi qu'on va jouer ensemble. On a un objectif un peu commun aussi, c'est le stage équipe de France, début mai, à Perpignan. J'adorerais me retrouver en équipe de France avec Julien, et je vais essayer de tout faire pour le motiver, pour le pousser, pour lui donner les bons conseils pour intégrer l'équipe. Moi aussi, je joue ma place, hein, je suis pas du tout garanti d'y être, donc il va falloir aussi que je sois très bon. Et puis, voilà, après, moi, c'était sélection en équipe de France qui m'anime vraiment là en juillet pour le championnat d'Europe. C'est un report de la saison dernière. Voilà, j'ai envie d'amener un petit peu. Tu m'as vu un petit peu dans un groupe, hein, mon expérience, un peu ma bonne humeur. Voilà, je pense que c'est encore intéressant de m'avoir dans un groupe pour ça aussi. Mis à part le niveau où on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont très bons, qui sont en train de performer aussi, qui pourraient très bien aujourd'hui prendre ma place. Mais voilà, dans un groupe en tout cas de 8 joueurs, il faut aussi avoir des personnes qui soient capables d'apporter son expérience, d'être aussi apporter leur terrain aussi, c'est important pour qu'il y ait une bonne ambiance, que la semaine se passe bien, essayer d'apporter le maximum de conseils possible et être derrière les potes d'équipe. Donc voilà, j'espère en tout cas avoir ce rôle encore une petite fois, et puis on verra par la suite. Et bon, voilà, il y a un tournoi qui me fait rêver, hein. Tu le sais, Émilie, hein, c'est Roland Garros. Donc voilà, on va laisser passer les JO, on va profiter des JO, et après on va se concentrer sur le premier paddle, le major à Roland. On va essayer de grappiller une petite wildcard, ce serait bien encore.
Bah ouais, en plus quand on est français, forcément c'est un objectif qui fait totalement rêver. Allez, on va passer, si vous voulez bien, à la piste à fédé.
La piste à fédé. La piste. piste à fédé.
Alors la piste à fédé, le thème central ce mois-ci, c'est quels sont les moyens, les ressources à mettre en place pour passer de moins en moins par l'école espagnole ou en tout cas pour pouvoir proposer en fait une alternative aux jeunes joueuses et aux jeunes joueurs français. Qu'est-ce que vous en pensez justement ? Parce que toi Adrien, t'es jamais allé dans le passé, enfin j'imagine que t'es allé en stage ou t'as fait des, t'es allé en Espagne, mais tu t'es jamais installé en Espagne.
Non, je me suis jamais installé en Espagne, j'étais faire quelques stages à Barcelone la plupart du temps, dans l'académie Pablo Ema et de Juan Aldai, mais bon voilà, on va pas se mentir, je pense qu'aujourd'hui si on veut performer au haut niveau, avoir la meilleure progression possible, encore aujourd'hui il faut partir en Espagne. Même si en France, il y a des académies qui se montent et que c'est des académies avec des anciens joueurs qui ont de l'expérience, qui sont capables d'apporter à des jeunes joueurs, bon, on est encore un petit peu loin, on manque encore de recul par rapport à ça. Et surtout, il y a aussi une question de coût.
Ah, c'est intéressant, tu vois, ce que tu abordes l'aspect financier, c'est de toute façon le nerf de la guerre. En gros, c'est combien une année en Espagne pour l'entraînement, tiens, puisqu'on parle chiffres.
J'ai pas fait tous les calculs, mais c'est vrai que... Moi, en tout cas, pour ma part, c'est à peu près, ce qui est entraînement paddle, c'est 500 euros le mois. Je m'entraîne tous les jours, une à deux fois par jour.
Ouais.
Donc en France, c'est pas les mêmes prix.
Non, c'est pas du tout les mêmes tarifs. Et puis justement, on revient sur ce qu'a fait Julien Serin 24 heures avec Alix Colombon. Mmh. Quand on voit la journée qui passe sur la piste aussi, on voit le niveau de padel, que ce soit garçon ou fille, parce qu'elle joue avec des gars aussi qui font office de sparring. On voit que le niveau aussi, c'est hyper important quand t'es joueur de padel d'avoir des sparring de très haut niveau. Il faut aussi qu'en France, on puisse créer cette densité, j'imagine, sur les sites pour pouvoir continuer à s'entraîner de bonne manière.
Ce qui est génial en Espagne, c'est que il y a toujours du monde. En tout cas, pour nous, pour des filles en plus, on a toujours un garçon qui va venir jouer, qui fait pas de tournoi, qui on sait pas d'où il sort, mais il joue super bien. En France, pour trouver des partenaires de son niveau, pour Adri, par exemple, qui est dans les meilleurs français, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai qu'en Espagne, le club où on s'entraîne, il y a 14 terrains sur 5 terrains, ça joue top 100 mondial. C'est inspirant juste de les voir, d'être même avec eux tous les jours. Et deux, trois fois, ils vont venir sur ton terrain jouer avec toi. C'est génial.
Adrien, justement, comment on peut passer la seconde, entre guillemets, on faisait le bilan des résultats, que ce soit en senior ou en senior plus. L'équipe de France arrive, on va dire, en troisième position. Comment, nous, on peut évoluer et justement, à terme, hein, attention, on ne va pas non plus tout révolutionner, ça ne va pas se passer en une année ou deux, mais en gros, sur ces 10 prochaines années, voilà, comment est-ce qu'on peut, tu imagines, comment on peut structurer justement la chose pour proposer et rivaliser de plus en plus, notamment avec les Espagnols.
Bah là, on a déjà une analyse qui est importante, c'est que ce soit en senior ou en senior plus, on fait partie des 3-4 meilleures nations. Ce qui n'est pas le cas chez les jeunes aujourd'hui, en tout cas chez les garçons. On a un petit peu de retard, donc il faut essayer de tout miser sur les jeunes. Alors, je dirais pas tout, mais il faut bien évidemment trouver un équilibre. Mais il faut vraiment se mettre une priorité sur les jeunes, que les jeunes qui soient dans les clubs puissent être rapidement détectés, qu'il y ait aussi des structures d'entraînement qui soient mises en place pour qu'ils puissent apprendre à jouer au padel. C'est le cas, mais aujourd'hui, c'est des projets un petit peu individualisés. C'est pas comme au tennis où on a connu, bah voilà, on a le club, on a les entraînements de club, on a l'équipe, après on est détecté, on va aller dans notre, à l'époque, la ligue, maintenant c'est le comité, mais on va aller dans la ligue, on va avoir une structure d'entraînement. Il n'y a pas encore ça qui est mis en place au padel, et il faut rapidement le faire.
Adrien, c'est vrai qu'il faut faire venir les filles au padel, parce que déjà, effectivement, il faut former, mais il faut aussi qu'il y ait de la matière, il faut qu'il y ait beaucoup de joueurs, et notamment beaucoup de joueuses. Ça aussi, c'est un taf à faire au sein des clubs, mais un taf qui est pas évident. Comment est-ce que tu peux imaginer aussi la promotion du padel ? Moi, je pense que déjà, la promotion que vous pouvez faire, déjà Canal+, merci de retransmettre du padel. Tout ce que vous faites sur Internet, ça permet de voir aussi faire la promotion du padel. Comment on peut amener ces jeunes justement vers ce sport ?
Moi, je pense que c'est un sport, là, tu parlais de femmes un petit peu. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup moins de compétitrices, que ce soit en jeunes ou en adultes, que de compétiteurs aujourd'hui. Je pense pourtant que c'est un sport vraiment qui est amené à plaire aux femmes, parce que voilà, il y a le côté de groupe, côté un petit peu convivial, côté sympathique. C'est un sport aussi qui est accessible, donc il n'y a pas besoin non plus de s'entraîner 6 fois par semaine pour avoir un niveau très correct et se faire plaisir. Donc voilà, c'est une question de... Voilà, c'est une question aussi de mettre en place des activités, peut-être des tournois un petit peu à part. Là, je trouve qu'il y a un truc qui est super aussi, c'est que les femmes peuvent participer à des tournois hommes, que ce soit avec un partenaire homme ou même entre femmes. Ça, je trouve ça génial. Donc voilà, il faut laisser le temps un petit peu aussi à ce que le sport se mette en place en France. Il a évolué à une vitesse incroyable. Ça va arriver tout doucement. On voit, Émilie, maintenant tu joues au padel, alors qu'il y a 3-4 ans, tu jouais pas encore.
Je pense que ça vient. Je pense que une fois qu'elles connaissent le sport et qu'elles ont, enfin, on devient tous addicts, que ce soit homme ou femme, de toute façon, c'est un sport qui rend addict. Avec le temps, ça va venir, mais dès qu'il y a des événements d'organiser, en tout cas, les femmes répondent.
Le plus important, aussi. En fait, je pense, c'est de faire découvrir le sport, c'est d'y goûter, en fait. C'est toujours ce truc en se disant, ouais, mais ça ressemble au tennis, mais c'est un peu un sous-tennis, entre guillemets. Sauf qu'en fait, quand 99% des personnes qui, à chaque fois qu'ils ont commencé à y jouer, sont devenus addicts. Donc, c'est que le sport, il est sympa à jouer, qu'on prend du plaisir sur le terrain.
Ouais, c'est vrai que... Mais en tout cas, la Fédé fait le job et fait des journées 100% femmes ou même découverte du paddle auprès des jeunes. Ça va prendre du temps, mais en tout cas, ça prend forme. Et ça, c'est une excellente chose. On a parlé du paddle. Maintenant, on va parler technique. Allez, c'est le moment de retrouver notre prof Yann Oradou pour l'instant technique.
Le prof.
Comment ça va, Yann ?
Salut, Mili, ça va très bien, merci.
Bon, est-ce que tu as la forme ? En tout cas, déjà, merci. Hein, ça fait quand même pas mal de temps où tu nous fais progresser techniquement. Est-ce que toi, tu as la forme ?
Écoute, j'ai la forme. J'ai repris un petit peu les tournois, donc je suis plutôt content.
Bon, bah, c'est bien. Au moins, tu mets en application tous les conseils que tu nous donnes. Et aujourd'hui, on va aborder la barada. C'est quoi la barada, Yann ?
Alors, la barada des parades, en fait, c'est le retour de vitre. C'est quand on se fait lober, qu'on ne peut pas faire de vibora ou de bandera, on est super loin du filet. On va plutôt privilégier le choix de laisser rebondir la balle, qu'elle touche la vitre, et derrière qu'on puisse réattaquer la balle. L'objectif étant de faire mal à l'adversaire pour reprendre le filet. Soit pour gagner le point directement sur un coup gagnant, soit en gagnant en deux temps, en montant à la volée et en faisant une volée à la fin.
Est-ce qu'il y a une position où on se dit, on se retrouve, je ne sais pas, juste un peu derrière la ligne ou sur la ligne, où là on se dit, bah là il faut absolument faire la barada et laisser rebondir et jouer avec la vitre. Est-ce qu'il y a un positionnement ?
En fait, ça va vraiment dépendre du lob. Si le lob est très haut, très long, il faut vite apprécier la trajectoire. Mais souvent, on le voit vite, on sait qu'on est loin du filet et on se dit, c'est préférable de laisser passer parce que si on fait une bandera ou une vibora très loin du filet, on va avoir plus de temps pour remonter au filet. Donc l'objectif, c'est vraiment de laisser passer. Enfin, ce qui est important, c'est de laisser rebondir la balle sur la vitre pour que la balle reparte un petit peu vers l'avant pour ensuite pouvoir faire mal.
Idéalement, il faut que notre corps il soit positionné où par rapport à l'impact pour faire une barada puissante et qui redescend ? Devant, derrière ?
Alors, toujours, hein, toujours au paddle, on essaie d'avoir le plan de frappe devant. Donc le corps il doit se positionner entre la vitre et la balle. C'est pour ça qu'il faut reculer très vite. Et très souvent, les débutants ne reculent pas assez vite et ils se retrouvent devant la balle à jouer avec un plan de frappe derrière eux. Et donc, ils ne peuvent pas jouer toutes les zones et surtout, ils manquent de puissance. Donc, l'objectif, hein, ça va vraiment se jouer aussi dans le déplacement vers l'arrière. Il faut vraiment reculer le plus vite possible, donc en pas couru généralement.
L'idéal, c'est quoi ? C'est d'alterner en termes de vitesse, d'envoyer de temps en temps une cartouche et puis de temps en temps faire la barada et aussi jouer lentement derrière le filet, plongeant.
Ouais, il faut savoir faire les deux. Ça va aussi dépendre de la hauteur du lob, le point d'impact à laquelle on frappe la balle. Mais oui, il existe des baradas, on appelle des croquettes dans les coins ou des balles un peu dans les pieds. Ça va aussi dépendre de ce que nous annonce notre coéquipier. Hein. Si notre coéquipier nous annonce qu'il y a un adversaire au fond, dans ce cas-là, on va plutôt rechercher jouer lentement pour reprendre le filet. Mais très souvent, quand on reçoit un lob et qu'on recule, les adversaires montent tous les deux au filet. Donc là, c'est bien aussi de vouloir frapper fort. Soit on peut jouer au corps, soit on peut jouer aussi fort au milieu. Ça marche très bien.
Qui a la meilleure barada pour toi au monde ? Celui qui te fait le plus rêver ? Ou celle qui te fait le plus rêver ?
J'ai un petit penchant sur la cuchilla de Paquito Navarro. La balle, si elle passe, elle ne rebondit pas du tout, c'est un coup gagnant. Après, il y a la barada de Belasteguin. Il l'a fait très à plat, très fort, donc il frappe plus fort. Il l'a fait bien. Moi, je préfère Paquito Navarro.
C'est quoi ? C'est le fait de mettre de l'effet ? T'as l'impression que t'as plus de sécurité aussi ?
Ouais, t'as plus de sécurité. Et puis, techniquement, plus difficile à réaliser. Et quand ça passe derrière, c'est gagnant. Ça rebondit à 3 cm du sol. Et c'est assez impressionnant.
Bon bah super, merci Yann, on se retrouve le mois prochain pour d'autres tips, d'autres choses qu'on va améliorer dans notre jeu.
Avec plaisir Emily.
Session Padel.
Alors Carla, on vient de parler de la barada avec Yann, elle est comment ta barada ? Alors moi perso, je trouve que c'est quelque chose d'hyper technique, une cata, est-ce que tu la maîtrises ta barada ?
Alors écoute, j'ai commencé à la travailler il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en début d'année, j'ai dit à mon entraîneur, écoute, je suis petite, je me fais souvent lober, ce serait quand même important que j'ai une bonne barada parce que beaucoup, beaucoup à jouer. Et avant, je faisais que des lobes parce que j'arrivais pas à bien me placer. Et maintenant, ça va un peu mieux, mais pareil, c'est des heures et des heures. J'essaye, je suis entre les deux. Je sais pas si tu as vu la barada de Charlotte Soubrier. Moi, je suis complètement fan. Elle fait une sorte de volée haute de coup droit. et la Barada d'Adri qui fait un service de fond de cours.
On va suivre ça, ta Barada, on va suivre justement les progrès techniques. Allez, c'est le moment, hein, le moment que j'attends à chaque fois, c'est la troisième mi-temps.
La troisième mi-temps.
Allez, la troisième mi-temps. On va commencer avec Carla. Carla, tu es plutôt à l'aise en attaque ou en défense ?
En attaque.
T'aimes pas les vides, tu l'as dit tout à l'heure. Et toi, Adri ?
L'attaque.
L'attaque, t'as envie d'envoyer des sous, je crois.
Ouais, j'ai envie de finir les points, moi. C'est plus mon kiff.
T'as envie de finir les points. Alors, ça peut aller aussi dans le sens. Carla, sur une piste de padel, t'es plutôt leader ou suiveuse ?
C'est dur comme question. Je dirais que ça dépend de la partenaire. Avec Jess, je dirais que je suis plus suiveuse.
Adrien ?
Moi, je pense qu'il y a... Bon, elle a raison, Carla, ça dépend du partenaire, mais il y a surtout une question de niveau aussi. C'est-à-dire que quand le joueur à qui tu joues est plus fort, naturellement, il faut aussi que ce soit le leader un peu technique de la paire. Et c'est important. Enfin, souvent, on dit toujours qu'il faut que le plus fort s'adapte un petit peu au moins fort. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que, justement, quand on est moins fort que son partenaire, c'est au moins fort d'essayer d'être poussé vers le haut et d'essayer d'élever son niveau de jeu pour rattraper celui qui est plus fort. En tout cas, dans une paire, on joue à deux, mais c'est aussi un sport très individuel. Et que il faut un moment aussi être capable de laisser le lead. Alors moi, je suis plus leader, on va dire, sur un terrain. Mais quand j'ai joué, par exemple, avec Benjamin Tison, qui était à un moment bien plus fort que moi, il a fallu que je lui laisse ce rôle de leader, que ce soit tactique ou technique, parce qu'il avait plus de capacité que moi de répondre à nos adversaires.
Moi, je suis pour le fait qu'il n'y ait pas de leader sur le terrain. J'aime bien quand les deux joueuses aient leur mot à dire. Moi, j'aime bien... Peu importe si je me sens plus forte ou moins forte que ma partenaire, j'aime bien donner mon avis et j'aime bien que ma partenaire me donne son avis et qu'on décide ensemble. Du coup, quand tu m'as demandé le leader ou si tu veux, j'étais là, bah, aucun des deux. Mais moi, je sais que les situations où je joue le mieux, c'est quand vraiment on est ensemble. Il n'y a pas une fille qui est leader et l'autre qui...
Intéressant, super intéressant vos réponses. Vous êtes plutôt entraînement physique ou entraînement padel ?
Alors...
Si je peux répondre, plutôt entraînement padel.
J'en étais sûre.
Moi, je dirais entraînement physique, mais sur le terrain de padel. Ça peut être très physique, le padel.
Mais c'est pour ça que je pose la question, parce que c'est très physique.
Les entraînements padel où vraiment on fait beaucoup de défense, pour moi, je fais mon physique en même temps aussi. J'aime bien ce genre d'entraînement, donc je dirais les deux.
Vous êtes plutôt padel à l'intérieur ou à l'extérieur ?
Pour ma part, je me suis beaucoup plus entraînée à l'intérieur et j'ai beaucoup plus joué à l'intérieur, donc je vais dire dedans. Mais là, récemment, j'ai pris du plaisir à jouer dehors et être au soleil, donc je dirais quand même intérieur.
C'est pour le teint, quoi. Et toi, Adrien ?
Ouais, c'est ça, pour le kiff et pour l'apéro après, éventuellement extérieur, mais sinon pour la compétition... extérieur, pardon, et pour la compétition intérieure.
C'est vrai que là, franchement, on a vu ce week-end entre jouer à l'extérieur ou à l'intérieur, je trouve qu'il y a une différence
ah
de
oui,
niveau.
C'est pas le même sport.
Non, c'est pas pareil. Tu te sens fort à l'intérieur et moyen à l'extérieur, enfin, en tout cas pour moi. Et pour terminer, petit pois ou pizza ?
Bah, pizza.
j'ai envie de dire petit pois, j'aime bien les petits pois, mais personne va me croire, donc je dis pizza.
Non mais je vois, parce que quand on regarde Alix Colombo qui pèse toute sa nourriture et tout, etc., elle est d'une précision au niveau du professionnalisme. Alors je sais pas si c'était, je pense pas en plus, c'est sûr que non, c'était pas parce qu'elle était face caméra, mais c'est un truc de fou.
J'ai vécu 6 mois avec elle et non j'ai essayé de faire comme elle, je voulais peser, ça a duré je pense une demi-journée.
Carla, qu'est-ce que je peux te souhaiter là pour ces prochaines semaines, quelque chose de sympa dont tu as envie?
Eh ben écoute, rentrer dans le top 100. Ça serait pas mal.
Allez, on va suivre ça. Bah oui, mais oui.
Ça va le faire.
Faudrait que ça arrive.
Mais ouais, ça va arriver. Et toi, Adrien, qu'est-ce que je peux te souhaiter ?
Une sélection en équipe de France et une wildcard à Roland-Garros.
J'adore, parce que là, on est dans du concret. Et ça me fait, ça me plaît énormément. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir participé à Session Padel. C'était fort sympathique. Adrien, on va continuer à t'écouter, notamment sur Canal, parce que c'est pas parce que t'étais invité, mais toutes les analyses sont hyper précises, sont pertinentes. On apprend plein de choses. Donc, bonne continuation à toi, en plus de ce que tu fais sur la piste de Padel. Et Carla, on va suivre, sélection en équipe de France, on va dire que c'est acquis.
Non.
Rien n'est jamais acquis dans la vie, mais bon, 104, rentrer dans le top 100 et puis une perf de dingue au Greenwiz qui aura lieu au mois de septembre.
Session Padel.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour ce nouveau Session Padel. N'hésitez pas à liker, dire que vous adorez, que c'est fabuleux, que ce podcast est incroyable. Et comme je le dis à la fin de chaque podcast, consommez le paddle, mais alors sans modération. Allez, je vous donne rendez-vous au mois prochain. Ciao, ciao.
Session Padel. Session Padel.